Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Yann Sioldo-Zurcher et je suis chercheur au laboratoire migrataire, je suis historien et je suis en charge de l'organisation de ces conférences qui s'intitulent les ateliers du chercheur. Je n'étais pas là la dernière fois, j'étais sur mon terrain d'étude et donc je reprends un peu la main. Et ce soir, on est très content de recevoir Sébastien Tanck, qui est sociologue, anthropologue, je n'ai jamais bien su la différence.
Moi non plus.
Bon, alors parfait. Mais en tout cas, tu es spécialiste des faits religieux, des juifs et du judaïsme. Ça, on est d'accord là-dessus. Tu as publié en 2007 un ouvrage qui s'intitule « Juifs d'élection ». En plus, j'ai ton CV, mais je connais ton bouquin. Donc, tu as donc « Juifs d'élection » qui traite de la question des conversions dans le judaïsme. Et tu as coordonné l'ouvrage sur la sociologie des religions.
Coécrit.
Coécrit même, plus que coordonné, sur la sociologie des religions. Et dans ce cadre de ces conférences, tu vas nous présenter la façon avec laquelle tu as construit un objet de recherche qui traite des questions des conversions, des questions des conversions dans une religion qui est réputée être extrêmement endogame et réputée être extrêmement fermée, mais avec des règles de façon d'entrée, de sortie, c'est encore autre chose. Et je te remercie vraiment de venir nous parler de cette question-là. Un petit mot, j'ai décidé cette année d'axer la plupart de mes cours sur, que je fais auprès des étudiants de M1 et de M2, sur le judaïsme, l'histoire du judaïsme, parce que d'abord c'est une de mes spécialités, et deuxièmement parce que je crois qu'on est dans une période assez compliqué où on a besoin un peu de rappeler quelles sont les formes de différence et surtout de proximité. Il n'y a pas d'étrangeté, il y a juste parfois des minorités. Et je crois que dans le cadre d'un enseignement qui est celui du laboratoire migrataire qui traite des formes de migration internationale, eh bien on a besoin un peu de rappeler quelles sont les formes de diversité d'appartenance au monde. Et je pense qu'effectivement, une conférence sur le judaïsme montre très clairement la multiplicité des formes d'appartenance au monde. Et donc, je suis assez content de te recevoir pour cette question-là. Merci à toi. Et puis, tu as une heure.
OK. Merci surtout à Migrantaire et à toi, Yann, en particulier, de m'avoir invité à présenter mes travaux. Ici, je suis très content de venir à Poitiers, j'avoue, pour la première fois. Ce sera à la fois l'occasion de présenter mon travail et de visiter cette ville. Alors, j'avais prévu quelque chose d'assez formel. Je vais peut-être faire un petit peu autre chose. On va faire, en discutant avec Yann, essayer de présenter un peu de manière plus dynamique mon travail. Ce que je vais vous présenter, alors j'espère que je ne vais pas faire trop long parce que je vais vous... Oui, je sais, mais le problème étant technique, c'est que j'ai prévu de vous présenter un petit peu comment s'est déroulée une recherche sur 15 ans de recherche, et d'essayer de voir comment finalement j'étais parti sur différentes problématiques. Les problématiques ont été révisées, réorientées, enrichies à la fois au contact du terrain et à la fois des lectures et des perspectives théoriques qui se posaient de loin en loin. Alors, le titre de ma conférence est « De la conversion au judaïsme à la question du pluralisme religieux, la construction d'un objet sociologique ». Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment, partant en 1996, si je me souviens bien, donc ça fait même plus que 15 ans, d'une recherche sur les conversions au judaïsme, de loin en loin, en fait, de fil en aiguille, en suivant le fil des problématiques qui se posaient au fur et à mesure, j'ai fini par travailler aujourd'hui sur la question du pluralisme religieux dans le judaïsme contemporain, c'est-à-dire sur la manière dont s'organisent, de manière plus ou moins conflictuelle, plutôt conflictuelle en fait, les différentes interprétations se réclamant d'un objet. D'ailleurs, d'un objet que moi, personnellement, en tant que chercheur, j'ai de plus en plus de mal à saisir, c'est-à-dire qui me paraissait évident au départ, c'est-à-dire le judaïsme comme quelque chose qui existait en soi. Et finalement, de me rendre compte que ce sur quoi je travaillais, mon objet, l'objet l'objet judaïsme était quelque chose de plus en plus fuyant, que j'avais de plus en plus de mal à définir, et que, justement, mon objet devenait comment cet objet se construisait socialement, se réactualisait socialement au fur et à mesure. Alors, je vais reprendre le fil, comme ça. Donc, j'ai un jour poussé la porte. En fait, j'avais commencé un travail de terrain plutôt en anthropologie urbaine sur la communauté juive de Besançon. Voilà, c'est un petit travail de maîtrise à l'époque. J'ai essayé de comprendre la place de ces juifs dans la ville, dans une petite ville, de comprendre comment, quel était leur rapport culturel, architectural, etc. Et chemin faisant, enfin plutôt terrain faisant, j'étais accueilli dans une famille juive, très pratiquante, très orthodoxe, comme on a l'habitude de dire aujourd'hui, avec qui j'ai eu des relations qui sont devenues, si vous voulez, ce qu'on appelle en anthropologie mes informateurs privilégiés, c'est-à-dire avec qui j'avais une relation particulière. Et je les ai fréquentés de loin en loin. J'habitais pas à Besançon, j'habitais à Paris, j'y allais régulièrement. Et puis un jour, j'ai appris que la maîtresse de maison était convertie. Ce qui m'a posé question, c'est-à-dire que d'abord je l'avais pas envisagé, et je m'étais jamais réellement moi posé la question de cette question de la conversion au judaïsme. Comment devient juif? Qu'est-ce que ça peut signifier dans une société? Alors, il faut bien dire qu'il y a 15 ans, la problématique et la place du religieux étaient un petit peu différentes, et c'est vrai qu'on parlait beaucoup moins des phénomènes de renouveau religieux qu'on peut en parler aujourd'hui. La question de la place du religieux dans l'espace public se posait de manière différente. En fait, on était juste avant ce qu'on appelle les premières affaires du foulard. Hein. C'était juste avant. Donc à l'époque, voilà, je me disais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui n'est pas né juif à vouloir embrasser le destin collectif d'un peuple un peu bizarre et surtout endosser des pratiques au quotidien, hein, comme je disais, c'est une famille orthodoxe, des pratiques au quotidien qui sont contraignantes, qui, quand on vit dans un monde qui n'est pas majoritairement juif, peut poser des problèmes au quotidien, ne serait-ce que pour se fournir en viande cachère, que pour de se battre à l'école, justement, pour faire accepter aux enseignants que les enfants viendraient peut-être le samedi à l'école, mais n'écriraient pas. Donc, demander aux enseignants de ne pas faire de devoirs le samedi, etc. Enfin, puisque à Shabbat, je ne sais pas s'il faut que j'explicite un petit peu tout. Parce que, bon, vous savez que le jour du Shabbat, du vendredi soir au samedi soir, les juifs sont censés se reposer et donc de ne pas travailler. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la notion de travail dans le judaïsme, c'est un peu compliqué. En fait, on ne doit pas, théoriquement, pas faire de tâches qui ont servi à la construction du temple de Jérusalem, et notamment pas écrire, voilà, par exemple. Pas faire de feu, pas utiliser l'électricité. Enfin, par extension, pas utiliser l'électricité. Pas porter dans l'espace public. Enfin, c'est contraignant. Enfin, c'est pas dans notre société actuelle, c'est contraignant. Donc voilà, moi je me suis posé, c'était ce type de questions que je me suis posé quand j'ai appris ça. Et puis surtout, j'ai fait un entretien plus particulier avec cette dame, ce qu'on peut appeler en fait ce qui est devenu un récit de conversion, c'est-à-dire que cette femme m'a raconté son parcours et c'était un récit tout à fait émouvant. Voilà, il y avait du coup pas mal de questions qui sont venues et donc voilà, je me suis assez vite dit que c'était un sujet qui méritait en tout cas de s'y pencher, surtout qu'il y avait absolument rien. Aucun travaux scientifiques qui avait été réalisé sur la question jusqu'à présent. Je disais que ça valait la peine, en tout cas, de partir là-dessus pour faire ce qui s'appelait à l'époque un DEA, c'est-à-dire un Master 2, dans l'idée, éventuellement ou pas d'ailleurs, hein, parce que quand on commence une recherche, on ne sait pas où ça mène, mais bon, peut-être d'en faire une thèse, ce que j'ai fait par la suite. Alors, quand j'ai commencé à travailler vraiment, c'est-à-dire quand je suis passé de la curiosité à l'élaboration d'un cadre théorique, d'une perspective théorique de travail sur les conversions, j'ai l'idée que j'avais derrière, et c'était notamment dans le fil de recherche qui à l'époque commençait à émerger sur la question des conversions générales, pas de la conversion au judaïsme en particulier, mais des conversions générales, sur l'idée qu'il fallait qu'on appréhendait globalement la conversion en général, la conversion, comme un mode privilégié d'expression et de manifestation de l'autonomie et de la subjectivité individuelle au sein de l'univers religieux. Le converti, c'était celui qui refusait l'héritage, ne s'inscrivait pas dans une perspective d'héritage identitaire, qui ne reproduisait pas, qui n'endossait pas l'identité héritée par ce qu'on appelle sa socialisation primaire, c'est-à-dire par ses parents, et qui allait prendre en chemin, en main sa manière de se construire et de se penser pour choisir et endosser une nouvelle identité. Donc l'idée, la perspective sur laquelle d'ailleurs on travaille toujours globalement, c'est qu'il ne s'agit pas de concevoir la conversion seulement, parce que ça l'est aussi seulement comme un déplacement de croyance, hein, comme le fait de changer de croyance, d'adhérer à des croyances nouvelles, mais surtout comme une série de changements plus généraux dans la compréhension individuelle de soi. Vous m'arrêtez, hein, dès que ça vous paraît trop, que je semble aller trop vite, etc., vous m'arrêtez, on reprend et tout. Donc, des changements généraux dans la compréhension de soi, hein, des individus, et de leur appartenance au groupe. Donc, dans ce cadre-là, la conversion, c'était une affaire d'identité personnelle, plus une affaire d'identité personnelle, qu'une réelle affaire de conviction et de croyance. Et une affaire personnelle, quand je disais que ce qui m'avait motivé en grande partie dans le fait de travailler sur les conversions, c'était le récit de conversion qui m'en a été fait, hein, de cette conversion, c'est que c'était une série de transformations, de manière de se penser soi-même dans un contexte social et dans des affiliations sociales qui s'opéraient par la médiation du récit, hein, du récit qu'on faisait de soi, et en forgeant une identité narrative. Et ce qui était intéressant, et notamment sur quoi travaillaient les chercheurs qui travaillaient sur les conversions, c'était l'idée que la conversion était l'occasion d'élaboration d'une subjectivité individuelle, notamment à travers le récit de soi qui s'opère à travers le récit de conversion, au sein d'un univers religieux qui, jusque-là, était pensé plutôt sur le mode de l'hétéronomie, hein, de mode de l'extériorité, de la réception. En fait, le converti semblait porteur des traits les plus saillants des transformations que l'on pouvait observer au sein du paysage religieux contemporain, où la mobilité religieuse et la subjectivisation des croyances, c'est-à-dire le fait que les croyants, ceux qui continuent d'aller à l'église, ceux qui vont à la synagogue, ceux qui vont à la mosquée, le font de moins en moins parce que ça se fait, parce qu'ils ont été élevés comme chrétiens, comme catholiques, comme musulmans, et qu'en étant élevés comme chrétiens, comme catholiques, comme musulmans, ils doivent reproduire ces pratiques en allant à la messe, parce qu'il y a la pression sociale du village, de la paroisse, des parents, etc. Donc moins par convention, moins par réception, moins par obligation que dans une démarche d'appropriation personnelle du sens. Aujourd'hui, si vous allez à l'église, alors précisons bien, à l'église, à la synagogue où vous voulez, précisons bien tout de suite, c'est pas entièrement, ce que je vais dire, c'est pas pour dire que c'est entièrement exempt de contraintes sociales. Hein. Mais simplement, quand vous allez à l'église, à la synagogue, vous ne pouvez pas le justifier en disant « ça se fait, c'est comme ça, mes parents sont nés là-dedans, on est nés là-dedans, donc moi je vais à l'église ». Ça marche toujours par une démarche d'appropriation personnelle. Et souvent, quand vous demandez aux gens, même s'ils sont nés catholiques, par exemple, même s'ils sont nés juifs, même s'ils sont nés musulmans, pourquoi vous allez à l'église, pourquoi vous allez à la mosquée, pourquoi vous allez à la synagogue, on dit, j'y vais parce que, et surtout quand je le sens, c'est-à-dire dans une démarche personnelle. Encore une fois, il faut distinguer ce qui ressort du registre de justification. Hein, peut-être que, voilà, c'est difficile de dire « ouais, bah, j'y vais par convention ». Donc on a plutôt tendance à justifier aux yeux des autres quelque chose qui est de l'ordre de l'authenticité personnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pressions sociales pour y aller. Mais simplement, le registre de justification, la manière de se construire comme sujet croyant, en fait, passe aujourd'hui par tous des registres de mise en récit, de justification, pour reprendre les termes de Thévenot et Boltanski, qui mobilise le registre de la subjectivité et de l'authenticité, de l'appropriation personnelle. Donc voilà. Donc moi, c'était dans cette perspective au début. Ça va pour l'instant, c'est à peu près. C'est dans cette perspective que je partais pour travailler sur les conversions. Pourtant, assez rapidement, il m'a semblé que cette perspective était problématique à plusieurs points. Vous voyez, hein, le moment de la construction théorique, la perspective que je vais essayer d'étudier comment finalement ces gens sont dans le vouloir être, on peut dire. C'est un mot qui rend bien compte de la démarche de conversion. Hein, et c'est dans une démarche d'autonomisation par rapport aux héritages. Et voilà, des gens qui veulent se construire, qui veulent être quelque chose, qui veulent être juifs. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, comment ils font? Comment se construit cet acte d'auto-engendrement, quelque chose comme ça, hein, d'auto-définition de soi? Voilà. Le problème, c'est qu'il m'est vite apparu que si mes convertis étaient effectivement bien dans un vouloir être, c'est-à-dire dans une démarche d'appropriation personnelle de leur identité, de construction personnelle de leur identité, ils se heurtaient très rapidement à des institutions à qui ils demandaient, à qui ils s'adressaient pour se convertir, et des institutions qui, leur demandaient plutôt, se plaçaient plutôt, de leur point de vue, dans le registre du devoir-être. Pour résumer, on avait des candidats qui arrivaient en disant « moi, je veux être juif parce que... » Alors bon. Au bout de 15 récits, finalement, on comprend assez vite ce qui se passe. Hein. Bon, les parcours sont multiples. Hein. C'est très difficile à la fois à objectiver et à de systématiser ces parcours de conversion. Mais il y a des motifs qui se recoupent beaucoup. Hein. Et notamment, il y en a un qui fait venir beaucoup de gens à l'idée qu'ils se sentent juifs. Hein. C'est le motif de la Shoah. L'identification au malheur, l'identification aux juifs comme peuple souffrant. Alors, ce qui est intéressant souvent, c'est que c'est des gens qui, dans leur famille, se sentent justement en porte-à-faux. Et notamment en porte-à-faux par rapport à un héritage familial qu'ils ont du mal à assumer. Et souvent, ce qui est revenu à de nombreuses reprises, un héritage familial issu de la guerre et notamment d'un grand-père de collaborateur pendant la guerre. Donc ça, c'est des motifs qu'on retrouve beaucoup. Donc vous voyez, là, c'est l'occasion de réparer quelque chose, mais c'est jamais complètement suffisant. Voilà, il y a au départ une espèce de ce que j'ai appelé un tropisme, c'est-à-dire une identification comme ça. Voilà, moi, j'ai toujours des gens qui sont toujours été décalés dans leur milieu, soit élevés dans le catholicisme, mais dont les parents étaient divorcés et donc qui étaient très fortement socialisés, par exemple dans des écoles catholiques, etc., mais qui, du fait du divorce de leurs parents, étaient stigmatisés parce que les parents, ça ne doit pas divorcer, etc. Donc qui étaient en porte-à-faux vis-à-vis de leur socialisation primaire, et qui trouvaient là, qui s'étaient toujours construits comme étrangers, en fait. Voilà, et la figure de l'étranger et de l'étranger souffrant résonnait. Alors, quand en plus il y avait une histoire familiale qu'on pouvait réparer par le fait de la conversion, c'était encore mieux. Et donc, ça bougeait un peu plus, si vous voulez. Il y a au début une petite phase d'identification qui mène absolument à aucune action concrète. Les gens, évidemment, ont une curiosité pour la Shoah, justement, pour l'histoire du judaïsme, qui va les amener à lire un livre. Alors, un livre, souvent, c'est Lévinas ou Marc-Alain Wachnin qui font venir. Voilà, il dit, ah tiens, Là, j'ai découvert qu'en plus, je pensais comme il pensait. Je suis plus seul à penser ce que je pensais être seul à penser. Voilà. Et puis, ben, de fil en aiguille, un voyage en Israël, qui, des rencontres, parfois des rencontres amoureuses, qui va cristalliser un désir d'en être. Et à ce moment-là, les gens vont... voilà, là, on est dans une phase latente sur laquelle il est très difficile de travailler, d'ailleurs, hein, parce que pour le chercheur, moi, ça m'est arrivé des fois de discuter avec des gens que je saisissais à ce moment-là, c'est-à-dire qui étaient dans une phase d'attirance pour le judaïsme, mais qui n'exprimaient pas de volonté de se convertir. Et comme je leur avais dit, moi, tiens, je travaille sur les conversions, etc., j'allais pas tellement leur demander non plus un entretien. C'était compliqué d'interférer sur mon terrain. Je me disais, pourquoi tu penses que je vais me convertir, en fait, etc. Donc c'était un peu compliqué. Donc on est obligé de travailler un petit peu en aval, c'est-à-dire au moins une fois que le désir formel de conversion s'exprime, que ces gens se disent, tiens, je vais me convertir. Voilà, donc moi j'ai pu travailler à ce moment-là, et toute cette phase avant, le problème c'est qu'on ne peut la saisir qu'à travers sa dimension narrative, c'est-à-dire qu'à travers la manière dont les gens la racontent. Et alors on sait bien que quand on raconte quelque chose qui est passé, c'est largement transformé. Il y a des logiques de transformation biographique, hein, comme dit Bourdieu, qui transforme la nécessité biographique, enfin la nécessité narrative en nécessité biographique. Et or, quand on s'aperçoit souvent que c'est des chemins, des parcours identitaires qui sont particulièrement instables et qui peuvent bifurquer à n'importe quel moment. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient entamé un processus de conversion et qui, à un moment donné, bifurquaient pour des raisons qui leur étaient personnelles. Si ces gens n'avaient pas bifurqué, si je les avais rencontrés peut-être un peu après, ils auraient complètement lissé ces moments de doute, ces moments d'incertitude, ces moments de basculement possible. Donc voilà, il faut aussi se méfier de l'illusion narrative, hein, que donnent parfois ces récits. Voilà. En fait, si ces gens, hein, quand on les prend jusqu'à cette décision de se convertir, voilà, étaient effectivement dans la construction de soi, hein, dans une herméneutique, une compréhension d'eux-mêmes, qui trouvait sa résolution dans l'identification à ce peuple et à cette histoire, si bien qu'ils voulaient en être, hein, jusqu'à vouloir en être. C'est vraiment de l'identification au sens propre du terme. Hein, c'est pas parce qu'ils croient, c'est pas parce qu'ils adhèrent à un certain corpus de croyances. Souvent ça vient après, hein, et ça j'aurai l'occasion d'en parler, c'est parce qu'ils en sont, voilà. Et c'est vraiment une nécessité qui apparaît à ce moment-là, c'est que voilà, la résolution de leur propre contradiction interne se trouve dans le fait de s'incorporer au sens propre du terme à ce peuple, à cette histoire, à ce destin. Alors, évidemment aussi sur le registre des justifications, il y a beaucoup de gens qui disent, mais alors en plus j'ai découvert après que j'avais un grand-père peut-être juif. Alors c'est très intéressant d'ailleurs, parce que évidemment, hein, le langage de l'identité dans le judaïsme, c'est prioritairement la filiation, hein. Vous savez, on est juif par la mère, et si on peut se convertir, la preuve, hein, il y a des conversions annuelles, etc., mais si on peut se convertir, c'est une identité un petit peu problématique pour le judaïsme lui-même. C'est-à-dire que il y a un processus formel de conversion, il y a un processus de conversion, il y a un rituel de conversion qui fait que des gens peuvent devenir juifs, mais qui n'est pas un rituel public. Le rituel, ça consiste en l'immersion dans le mikvé, le bain rituel, qui ressemble à un baptême dans les eaux. Hein, voilà. Et c'est ça fait la conversion. Pour les hommes, il faut en plus la circoncision. Mais ce qui fait la conversion, le moment, parce qu'évidemment les juifs discutent toujours de tout, de savoir, c'est important d'ailleurs, hein, de savoir à quel moment le non-juif devient juif, est important à déterminer, parce que du coup il est soumis à des registres juridiques différents, j'y reviendrai peut-être après. Donc évidemment, ils ont discuté de savoir à partir de quel moment un individu devient juif, et les rabbins se sont plutôt mis d'accord sur l'idée que c'est le mikvé, donc l'immersion dans le bain rituel qui fait la conversion, qui fait le passage. La circoncision étant obligatoire, mais pas un marque. C'est pas elle qui marque le passage. Enfin, elle le marque, mais c'est pas elle qui le fait. Voilà. Quand je disais tout à l'heure que... Alors, je suis complètement parti ailleurs que par rapport à ce que j'avais prévu. Que ça n'est pas un rituel public, c'est que il y a une identification compliquée pour le converti, une fois converti, ça j'anticipe un peu, par le fait que justement, comme la forme canonique de transmission de l'identité dans le judaïsme, c'est la filiation, l'identité du converti est une identité souterraine, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé rappeler au converti qu'il est converti. Et c'est une honte de rappeler au converti qu'il est converti, sous-entendu qu'être converti serait une honte. Enfin, serait en tout cas un degré d'identité un petit peu problématique au regard de l'identité juive. Donc, c'est important parce que, du coup, beaucoup de gens qui sont passés par la conversion, qui sont arrivés au bout de leur processus de conversion, vont justifier leur identité, notamment en mobilisant une filiation plus ou moins mythique. Et c'est intéressant d'ailleurs, j'avais le cas d'une jeune femme qui s'est convertie, que j'ai suivi pendant presque du début de sa conversion, de son processus de conversion à la fin, la fin étant son mariage, qui est venu après sa conversion. Si j'ai le temps, je développerai, c'est intéressant. Et alors, elle m'avait souvent parlé de son grand-père, qui serait peut-être juif, allemand, enfin bon, voilà, peut-être. Et en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle laissait toujours la question en suspens. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais réellement cherché à savoir s'il était ou non juif. Ce qui était intéressant, en fait, c'était le peut-être. Voilà. Et c'était la possibilité symbolique qu'ouvrait ce peut-être pour se construire dans cette... Alors, du coup, je n'avance pas. Et ces gens donc, arrivent, ils sont dans leur processus identitaire. Parfois, c'est dans le cadre d'un mariage, j'y reviendrai plus tard. En fait, dans 90% des cas, c'est dans le cadre d'un mariage. Mais est-ce que ces gens arrivent et se confrontent à donc ils décrochent en général. Avec Internet, ça a un petit peu changé. Ça aussi, j'ai pu l'observer, puisque quand j'ai commencé à travailler en 96, personne n'avait Internet. Donc il fallait, à l'époque, décrocher son téléphone, appeler le Consistoire central de France, qui est l'institution qui est un quasi-passage obligé pour les candidats à la conversion. Ça aussi, j'y reviendrai après. Ils décrochaient leur téléphone et on leur disait il faut écrire. Donc, ils écrivaient une lettre à laquelle les rabbins ne répondaient pas. Ils réécrivaient une lettre. Et là, ils avaient un rendez-vous, etc. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je disais, la conversion, c'est quelque chose qui est, si vous voulez, si vous regardez les groupes pentecôtistes, je ne sais pas si vous avez entendu parler du protestantisme évangélique, qu'on appelle en fait un protestantisme de conversion. C'est-à-dire que c'est vraiment la conversion qui est au centre, la conversion personnelle, hein, qui est au centre de l'expérience religieuse. C'est même le centre du rituel. Le rituel se construit par la conversion des gens sur scène, hein, par des séances d'exorcisme, etc. etc. On n'est pas du tout dans ce cas de figure dans le judaïsme. Dans le judaïsme, je disais tout à l'heure, la conversion est possible, mais la conversion pose question à l'identité juive. À la fois, elle est possible, mais à la fois, elle n'est pas au centre ni de l'expérience religieuse, ni même des modes majoritaire de transmission, d'acquisition de l'identité. Et alors, c'est un problème parce qu'en fait, cette ambivalence, le judaïsme est une religion universaliste, elle peut pas complètement, n'est pas complètement enfermée dans l'ethnique, elle a un message éthique qu'elle fait porter, donc elle ne peut pas se fermer aux conversions. Et à la fois, elle a constamment bricolé le rituel de rituel de conversion est quelque chose qui s'est, bricolé, c'est pas péjoratif, hein, mais qui s'est élaboré de manière assez progressive. Et il y a peu d'exemples, et notamment peu de passages dans la Bible, qui permettaient vraiment d'élaborer une procédure, à part l'épisode de Ruth, hein, qui est je me souviens jamais, comme j'ai aucune mémoire des noms, j'oublie toujours les personnages. Bon, Ruth a suivi son mari et sa belle-mère en terre étrangère. Son mari est mort, sa belle-mère rentre et elle veut suivre sa belle-mère. Voilà, qui lui dit, et sa belle-mère la repousse. Elle lui dit non, tu n'as rien à faire, vis ta vie, etc., etc. Moi, je rentre. Voilà. Elle la repousse 3 fois. Au bout de la 3e, elle lui dit d'accord, si tu insistes à ce point, d'accord. À partir de ce récit, les rabbins ont codifié un processus où il est d'usage, pour que la conversion soit valable, de repousser 3 fois les candidats. Alors, les candidats, au début, ils trouvent que c'est assez grossier d'être conduit comme ça. Mais en fait, ils finissent par apprendre, ils finissent par comprendre et apprendre eux-mêmes. Donc, ils apprennent que si on ne leur a pas répondu une fois, il faut écrire une seconde lettre, au terme duquel ils auront un rendez-vous où ils se feront rejeter, etc. Bon, bref. Je vais aller plus vite. L'idée que je veux passer là, c'est que, en fait, eux, ils sont dans leur vouloir être, et les rabbins, assez vite, vont leur opposer l'idée que s'ils veulent devenir juifs, il faut faire rentrer dans des logiques non pas individuelles, non pas subjectives. Il faut devenir juif tel que eux-mêmes entendent ce que c'est qu'être juif. Et alors, pour les rabbins, enfin pour certains rabbins, pas pour tous les rabbins, en tout cas pour les rabbins du Consistoire central de France, auxquels la majorité pour des raisons à la fois historiques et pour des raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard, pour ces rabbins, être juif, c'est respecter les mitzvot, c'est respecter la loi, c'est être soumis à la loi. Alors du coup, mon sujet, ma problématique de recherche n'était plus tellement de savoir, c'était aussi, hein, à travers, j'ai travaillé sur ces récits de conversion, de voir comment cette identité, cette identification, en fait, hein, subjective, individuelle, etc. Donc j'ai travaillé là-dessus, mais ce qui a constitué le cœur de mon travail, ça a été non plus tant l'identification en elle-même, comment ces gens voulaient devenir juifs, mais comment ces gens étaient faits juifs. C'est-à-dire comment ils passaient d'une identification individuelle et subjective à ce que j'appelle une identité formelle et institutionnalisée. C'est l'identité qui était donnée par des rabbins, par des institutions, validée. Et que, de fait, au cœur de la démarche de ces convertis, je disais, c'est d'être juif, et ce devenir juif devait forcément passer par une validation des juifs eux-mêmes qui les accueillent. Et ce passage-là, c'est donc ce que j'ai problématisé comme le passage de l'identification individuelle et subjective à l'identité formelle et institutionnalisée. Et ce processus s'est avéré extrêmement normatif. C'est-à-dire que j'avais des gens qui étaient là en disant, voilà, ce qui est très important dans ma démarche, c'est de m'approprier le sens, de comprendre pourquoi j'allume pas la lumière à Shabbat, de comprendre pourquoi je fais ça. Et des rabbins qui leur disaient, il faut faire. Faire et puis vous comprendrez après. Et si vous comprenez... Alors, ça aussi, c'est quelque chose... c'est un rapport à la pratique qui est presque constitutif d'un certain judaïsme, qui est que la pratique religieuse... C'est dans la pratique qu'est contenu le sens, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que... souvent, les règles du judaïsme paraissent un peu bizarres, et même pour les juifs eux-mêmes. Hein, ils passent des jours et des heures et des années, une vie entière, à essayer de comprendre. Donc on discute beaucoup dans le judaïsme, on étudie beaucoup sur ce qu'il est permis de faire, pas permis de faire, pourquoi il est permis de le faire, pourquoi il n'est pas permis de le faire. Et, mais justement, c'est que la pratique, c'est la loi. La loi, elle est donnée par Dieu. En tout cas, elle est révélée. Et que, voilà, il faut la mettre en œuvre, même si le sens ne nous apparaît pas après. Le sens vient en faisant, « Naase venishma », »,« Fais et tu comprendras », dit le judaïsme. Et c'est surtout, voilà, c'est pas, on n'a pas à choisir dans les différentes lois, ça a été révélé, on prend tout, du coup, sans forcément faire le tri entre ce qui est bien. Alors, c'est une position particulière, hein, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est une position particulière. Donc voilà, donc on a un petit conflit là qui fait jour entre des candidats à la conversion, pour qui en fait ça va s'avérer être une véritable violence de sortir de ce registre du vouloir être, de ce registre autonome, hein, de la subjectivité, de l'appropriation personnelle, de l'authenticité personnelle, pour rentrer dans une religiosité de la norme, du devoir, de la prescription. Et alors, quand je dis ça, c'est surtout très compliqué pour les jeunes femmes qui constituent l'écrasante majorité du corpus. Parce que souvent, je disais, hein, c'est des gens qui rejettent notamment certains héritages, notamment de collaboration, des gens qui se sont construits en opposition parfois des familles de droite en étant comme des gens très à gauche, progressistes, des militants pour toutes les causes minoritaires, militants antiracistes, militants pour des causes homosexuelles, etc. Donc c'est des gens qui arrivent là dans une vision très, avec une idée très progressiste des convictions très progressistes, et qui, et notamment pour les femmes, vont rentrer dans une toute autre conception du féminin. C'est-à-dire que fini les jupes courtes, les jupes longues, un tout autre rapport au corps. Donc voilà, on est. Et ce qui était très intéressant, et moi ce qui m'a intéressé du coup là-dedans, et ce qui a constitué donc tout ça, c'est d'essayer de comprendre comment, par quel processus, des gens sous l'influence d'institutions religieuses. D'ailleurs, qui elles font très peu de crédit. Hein, ces rabbins, ça se passe pas bien en général. Ils sont donc c'est surtout au Consistoire central de France, c'est un processus très bureaucratisé. On est en France, hein, avec très peu d'interconnaissance. Hein, les rabbins ne connaissent pas les candidats. Ils sont des dossiers. Le Consistoire central traite 1500 demandes à peu près par an. Il y a 100 dossiers qui aboutissent chaque année. Oui, c'est pas tellement mieux que la grecque de philosophie. C'est mieux. Je ne connais pas les. Mais voilà, donc c'est. Et surtout, il y a une grande animosité vis-à-vis de ces rabbins. Mais pourtant, ils vont faire ce que les rabbins demandent. Ils vont progressivement rentrer dans le registre de religiosité que leur demandent les rabbins. Alors c'est tout à fait étonnant parce qu'il y a des institutions à côté, à deux pas, hein, du consistoire, qui, elles, sont beaucoup plus ouvertes. Beaucoup plus... Voilà. Alors, peut-être qu'il faut... Alors, voilà, ce qui m'a intéressé, du coup, c'était de comprendre comment, justement, c'est... Il m'a semblé que dans la relation qui se nouait entre ces candidats à la conversion et ces rabbins, et ces institutions, je pouvais observer quelque chose qui était devenu hautement problématique aujourd'hui dans le monde contemporain, c'est de l'autorité religieuse en train de se faire et en train de s'exercer. Et quelque chose qui n'existe quasiment plus nulle part. C'est pas, en tout cas, à Paris, en France, etc. Les pays, et encore. Voilà. Comment de la norme religieuse se fait, comment du pouvoir religieux se fait, dans un contexte de subjectivisation et d'autonomisation croissante du champ religieux. Voilà. Donc j'avais, vous voyez, hein, je pars de l'autonomie individuelle et j'observe une situation qui est une situation assez vite décrite, assez vite observée, mais qu'il faut recontextualiser, reproblématiser comme étant, voilà, je peux observer une relation d'autorité. Alors, je vais passer là-dessus. Pour essayer de... Maintenant, j'étais du côté des convertis, je vais me placer du côté des rabbins. Rapidement, je disais tout à l'heure, le processus de conversion a été codifié à travers différents textes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut retenir trois choses. Les textes, et notamment le traité Guérim, c'est-à-dire le traité qui formalise le processus de conversion, dit, bon, il faut repousser trois fois, tétini, patati patata, mais surtout, on doit faire attention quand un candidat se présente à la conversion, d'étudier ses motivations. Et on doit refuser surtout des candidats dont l'intention ne serait pas pure. Les Shem Shamaïm, pour dire l'intention pure. Le problème, c'est que les rabbins sont très vite conscients que sonder les cœurs, sonder la pureté de l'intention est quelque chose de relativement difficile. Donc ils vont proposer une définition de l'intention pure par défaut. Un petit peu comme la théologie négative. Hein, vous savez, on ne peut pas tellement savoir ce qu'est Dieu, en revanche, on peut savoir ce qu'il n'est pas. Ils vont plutôt proposer de dire l'intention n'est pas pure à partir du moment où on peut isoler, en tout cas, où elle semble être manifestement intéressée. Alors, qu'est-ce qui pourrait être une motivation intéressée, hein, qui serait donc pas pour l'amour de Dieu, obtenir du pouvoir. Bon, en général, on ne vient pas juif pour obtenir du pouvoir, mais enfin bon, pourquoi pas. De l'argent, peut-être, pourquoi pas. Mais bon, on ne voit pas tellement. Mais surtout, pour obtenir un conjoint. Et c'est là que ça se corse. J'y reviendrai après. Deuxième chose, c'est qu'il faut que le candidat... Alors, je précise tout de suite. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, évidemment, l'interprétation n'est pas si aisée. Notamment, il y a une question. Est-ce que l'intention pure est forcément annulée par le fait qu'il y ait une volonté derrière? Finalement, est-ce que le fait de vouloir un conjoint annule, empêche forcément qu'il n'y ait pas d'intention pure derrière. Là, les rabbins ne sont pas d'accord. Voilà. Et puis, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas manifestement d'intention cachée ou non pure, est-ce que ça révèle tant que ça la pureté d'intention? Bref, on a toute une série de problèmes. Voilà. Bon, un candidat dont l'engagement est jugé sincère, voilà, pourrait aussi être les Shem Shamaïm, malgré l'existence de motifs non religieux, non purs. Bon, voilà, c'est le premier problème, si vous voulez. Deuxième point que codifie le texte qui s'occupe du Guyour. Hein, Guyour, c'est le processus de conversion au judaïsme. C'est le fait que le candidat doit s'engager envers les mitzvot, envers la loi. Là encore, est-ce qu'il doit prouver qu'il s'engage dans la loi? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il doit d'abord démontrer qu'il est entièrement soumis à la loi? Ou alors, est-ce que cet engagement vers les mitzvot ne serait pas simplement ne pas rejeter explicitement les mitzvot, ne pas dire explicitement « moi, je ne vais pas pratiquer » ou « moi, je refuse tel ou tel ». Pas simple. Le texte n'est pas clair. Bon, voilà. Ça, c'est les deux points, en fait, qui vraiment vont guider l'interprétation rabbinique. Alors, si le candidat répond à ces critères, hein, favorablement à ces deux critères, si l'intention est pure et s'il s'engage envers les autres, encore une fois, si on juge pure leur intention et si on trouve leur engagement suffisamment démontré, le candidat doit être admis. C'est pas il peut être admis, il doit être admis. Lui qui veut et qui remplit les critères doit être admis. Le rabbin ne peut pas faire à sa guise, théoriquement en tout cas, un privilège qu'il a d'accepter ou pas selon la bonne mine du candidat. Donc, à ce moment-là, il est admis au rituel de conversion, je disais tout à l'heure, mikvé et circoncision pour les autres. Et théoriquement, le rituel, s'il est mené... dans les formes, ne peut pas être mis en cause, même si après on découvre d'éventuelles motivations cachées et non pures qui seraient apparues après. Le rituel fait. Une fois que le candidat est converti, aucune distinction juridique n'est établie entre les juifs de naissance et les juifs convertis. C'est un juif comme un autre, sauf qui est mon spécialiste des mariages. Sauf que le converti ne peut pas épouser un Cohen, c'est-à-dire un prêtre, un descendant des prêtres, pour des raisons de pureté. Voilà. Et il est le seul à pouvoir épouser un mamzer, un bâtard. Un enfant illégitime. Le fils... l'enfant d'une femme née adultérin. C'est compliqué là encore, ça, c'est des situations très très compliquées, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une situation... Non, mais c'est mamzer, c'est la traduction, si vous voulez. Le problème, c'est qu'en fait, en Israël, aujourd'hui... Pardon ? Alors, je vais m'expliquer pour le fait pourquoi j'ai mobilisé le terme. Parce que, en fait, aujourd'hui, c'est une catégorie... Enfin, c'est le mamzer, la traduction, c'est bâtard. Bâtard, c'est l'enfant illégitime, etc. Aujourd'hui, la catégorie de mamzer pourrait sembler un peu désuet aujourd'hui dans la société contemporaine, sauf qu'en Israël, le droit des personnes est de juridiction religieuse. Ce qui fait qu'un enfant illégitime en Israël, un mamzer, ne peut pas se marier, sauf avec un ou une convertie, ou alors aller à Chypre. Mariage, enfin à Chypre ou ailleurs, enfin à l'étranger. En général, c'est à Chypre, c'est le plus près. Le mariage sera reconnu. C'est pour ça que c'est une catégorie très présente et très active et qui pose problème puisque le droit du divorce est aussi un droit religieux et que le divorce étant admis dans le judaïsme, il est admis d'un commun accord pour les hommes. C'est-à-dire que si un homme refuse de donner le get, c'est-à-dire l'acte du divorce, et même si les époux sont séparés, tant que le get n'est pas donné, la femme est toujours considérée comme mariée. L'homme, ce n'est pas trop un problème parce que ce n'est pas lui qui transfère le statut de mamzer, c'est la femme, et qu'en plus, en général, les rabbins ne sont pas trop désaccommodants avec les hommes, qui peuvent toujours contracter un mariage polygame par exception. Et donc, voilà, pas de problème. En revanche, les femmes qui n'ont pas prise sur l'obtention du guet se retrouvent parfois dans des situations problématiques et il y a une terreur, une vraie terreur d'engendrer des mamzers. Mamzeries, voilà. Ceci est une parenthèse. Je n'aurai pas le temps de tout faire. Donc, Donc, pour faire vite, on sent bien que, je vous disais tout à l'heure, essentiellement des femmes, les converties, hein, des femmes qui se convertissent dans le cadre d'un mariage, 90% des cas, jeunes femmes dans le cadre d'un mariage. Alors, pourquoi des femmes? En général, c'est parce que, justement, c'est elles qui, ensuite, vont transmettre l'identité aux enfants. Alors, c'est intéressant de comprendre, dans ces cas-là, c'est que le mariage mixte, et notamment le mariage mixte dans le cadre de conversion, est assez compliqué à analyser. C'est-à-dire que le mariage mixte, c'est toujours une situation ambivalente pour un notamment juif. Alors, c'est beaucoup d'hommes qui font des mariages mixtes, souvent, plus que des femmes. Bon, je pense que Yann en parlera mieux que moi. Mais le mariage mixte ne signifie pas forcément pour les hommes qui font un mariage mixte, pour les femmes d'ailleurs, en tout cas pour les juifs qui contractent un mariage mixte, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sortent complètement des dimensions de leur judaïté. Simplement, ça signifie une chose, qu'au moins une prise de distance vis-à-vis des normes. C'est-à-dire le fait qu'une disjonction entre le fait de se sentir juif et le fait de s'assujettir aux normes et aux règles, à la loi du judaïsme. Le principe d'endogamie, du fait de se marier dans le groupe, étant un principe fort pour le judaïsme. Ça se complique encore. Alors, en plus, beaucoup, alors aux États-Unis, ça se fait énormément, c'est-à-dire des gens qui font des mariages mixtes, et qui emmènent leurs femmes et enfants, pas forcément convertis, dans les synagogues, etc., etc. Ça se complique un peu quand on a des conversions dans le cadre de mariage mixte. Alors, moi, j'ai écrit dans ma thèse que le mariage n'explique jamais une conversion. Même si 90% des cas de conversion sont dans le cadre d'un mariage mixte, une infime partie des mariages mixtes donne lieu à une conversion. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose en plus. Et c'est quelque chose en plus, en général, c'est la question de la transmission. Et c'est surtout, et ça se passe ensuite dans une dynamique de couple. C'est que vous avez, en général, moi je l'ai analysé comme ça, alors après ça demanderait peut-être d'être un peu plus fouillé, c'est qu'il me semble que le mariage mixte, c'est un arbitrage entre deux logiques matrimoniales différentes, pas forcément concurrentes, mais qui peuvent être non peuvent pas se recouper, pas forcément. Et entre la logique endogame, le fait de se marier entre son groupe ethnique, etc., ce que vous voulez, religieux en l'occurrence, religieux ethnique, c'est compliqué de définir le judaïsme. Enfin, en l'occurrence, le fait de devoir se marier avec quelqu'un du groupe et la logique largement surdéterminée aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines, qui est l'homogamie, c'est-à-dire le fait de se marier au plus proche socialement. Et ce que j'ai remarqué, moi, en observant mes couples convertis dans le cadre de mariage, c'est que c'était des couples qui non seulement étaient homogames, mais très, très homogames. C'est-à-dire dans le sens où, oui, c'était vraiment des professions très, très proches, des enseignants qui étaient des couples d'enseignants, des couples de médecins, des couples comme ça. Alors, le truc, c'est que, pour le dire autrement et de manière plus jolie, il y a une logique romantique aussi qui est à l'œuvre et qui est préférée. Bon, bref, c'est des logiques. Il y a des logiques matrimoniales. La logique romantique en est autre. Une, en général, elle va avec une logique homogame qui est en tension avec la logique endogame et il y en a une qui l'emporte à un moment donné. Souvent, en tout cas dans le cadre des mariages mixtes où il y a une conversion, ce mariage mixte est vécu par le conjoint juif comme un véritable sacrifice. C'est-à-dire un sacrifice fait au conjoint non-juif. Et dans une logique de chaîne de dons, un sacrifice donc comme un don. Et dans une logique de dons et de chaîne de dons et de contre-dons, la conversion de l'épouse arrive comme un contre-don au sacrifice qui est fait. Et ce contre-don, il se fait surtout pour une chose, pour transmettre l'identité aux enfants. Voilà. Alors, je vais... Donc, le problème, c'est que les rabbins, ça leur pose problème, la conversion dans le cadre d'un mariage. Ça leur pose problème parce que les textes disent que théoriquement, ils ne devraient pas. À la limite, ça, c'est pas très grave et toujours, ils s'en arrangent. Le problème, il est que ça engage la posture que ces rabbins, en tout cas, ça appelle pour eux, ça engage la réponse qu'ils donnent à un problème qui leur paraît être un problème grave, notamment au contexte de diaspora, c'est le problème des mariages mixtes. Schématiquement, on a des points de vue qui s'opposent de ce point de vue-là, c'est que des rabbins qui pensent que si on accepte des conversions dans le cadre d'un mariage, en tout cas, si on facilite dans le le cadre d'un mariage, c'est donner un blanc-seing aux juifs d'aller chercher femme ou homme à l'extérieur de la communauté. Il y aura toujours un rabbin pour les rattraper, etc. Ce à quoi les rabbins opposent, la responsabilité individuelle, au sens propre du terme, en disant, vous avez fait un choix, c'est votre choix, vous en êtes libre, mais ça n'est pas à nous de réparer le désordre. Alors, vous êtes triste maintenant, vous êtes triste. Ben, vous aviez qu'à y penser avant. Et ce n'est pas à nous. D'autant plus que c'est, de leur, c'est une responsabilité pour le rabbin de faire un juif, si vous voulez. Pour le judaïsme, un non-juif est sauvé à la condition qu'il respecte les lois de Noé. Alors, les sept lois, je les ai. Hein. C'est pas trop compliqué. Ne pas adorer les idoles, ne pas blasphémer, ne pas commettre de meurtre, d'inceste, d'escroquerie, établir des lois, respecter l'ordre, ne pas manger de la chair d'un animal vivant. Voilà, ça va. C'est jouable, pour le dire trivialement. Respecter les 613 mitzvot, c'est une autre affaire. Le problème, c'est que quand les rabbins savent pertinemment que le couple ne va pas pratiquer, en tout cas ne va pas élever les enfants, comme je disais tout à l'heure, dans l'idée que ces rabbins eux-mêmes se font de ce qu'est être, comment des enfants devraient être élevés, des enfants juifs devraient être élevés. Quand les rabbins ne sont pas sûrs de ça, ils refusent de s'engager dans la conversion. L'intérêt est double, en fait, et c'est comme ça que je l'ai analysé, c'est que en fermant la porte aux conversions, parce que c'est ça, hein, de fait, la politique est mise en place, notamment par le Consistoire central de France, en fermant la porte aux conversions, on met les juifs devant leurs responsabilités face au mariage mixte. On se dit que on fait monter le prix. Hein, je disais, c'est un arbitrage entre endogamie et homogamie, hein, entre endogamie et logique romantique, peu importe. C'est un arbitrage à un moment donné. Si on fait monter le prix, c'est-à-dire le coût du mariage exogame, à ce moment-là, on va peut-être éviter que la multiplication des mariages mixtes. De fait, ça ne marche pas. Hein, mais, voilà, mais bon, ça, c'est la logique répressive. Hein, c'est une logique répressive. Il n'y a pas que dans ce type de schéma qu'on trouve ça. L'idée, c'est donc entendre lutter contre les mariages mixtes, mais aussi, c'est une double fonction, énoncer, parce qu'en fait, ils vont quand même convertir. La conversion n'est pas fermée. Elle reste possible à condition que la femme qui veut se convertir, mais aussi le conjoint et aussi les enfants, fasse tchouva. Faire tchouva, c'est-à-dire littéralement reviennent à la réponse, c'est-à-dire deviennent des juifs pratiquants en tout point. C'est-à-dire s'ils démontrent, même s'ils prouvent pendant de longues années, leur conformité avec les normes de l'institution. À ce moment-là, c'est possible. Donc on a une double fonction dans le processus de conversion et dans cette politique de fermeture vis-à-vis des conversions dans le cadre de mariage, énoncer le respect des mitzvot, hein, le respect de la loi comme norme absolue de l'identité juive, puisque finalement c'est à cette condition qu'on convertit, c'est parce qu'un bon juif, c'est ça. Un juif, c'est quel ? C'est un juif soumis aux mitzvot. Donc énoncer le respect des mitzvot comme norme de l'identité juive, et mettre en scène la relation idéale entre rabbin et fidèle. Et dans l'idée de ces rabbins, cette norme idéale, c'est la soumission aux prescriptions rabbiniques. Alors, tout le monde n'est pas d'accord pour ce... Alors, de fait, pour faire vite, hein, une conversion au consistoire central de France dure en moyenne 5 ans. C'est très, très mal vécu par tous ceux qui y passent. La conférence de Sophie Nizard sur l'adoption, on dira encore pire, parce que quand un enfant, bon, elle vous en parlera peut-être mieux, mais bon, quand un couple juif adopte un enfant et que la filiation de l'enfant n'est pas avérée, il faut convertir l'enfant pour qu'il soit juif, sinon il n'est pas juif. Or, les institutions demandent exactement la même chose aux parents juifs pour convertir l'enfant, c'est-à-dire qu'ils deviennent des pratiquants. Et ça, c'est très mal vécu par ces gens qui sont pas, qui n'ont pas besoin de tickets, qui ont été toujours élevés comme des juifs, qui sont des juifs qui ont, pour qui leur identité n'a jamais été remise en cause et pour qui l'identité d'un enfant, même adopté, ne pose aucun problème. Il est juif puisque eux sont juifs. Et ça, c'est hyper douloureux. C'est très, très douloureux. Mais c'est douloureux aussi pour les candidats. Alors, plus ou moins, il y a des candidats qui adhèrent, a priori, au processus et pour qui ça se passe bien. Ou alors pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans l'idée que c'est une assaise qu'ils se disent qu'ils ne sont pas à la hauteur. J'ai un exemple de quelqu'un qui était donc le plus, celui pour qui ça se passait le mieux, finalement, parce qu'il était dans une démarche très intellectuelle, très, enfin, il comprenait tout ce qu'on lui demandait et il adhérait complètement, sauf que 5 ans, c'est long et qu'à un moment, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et il s'est dit qu'il n'était pas à la hauteur. Enfin, voilà, bon, là, il vivait ça comme une assaise, mais ce que ça devient... Mais surtout, ce qui est dramatique, c'est que les candidats finissent par comprendre qu'il faut pratiquer sans se poser de questions. Surtout, ce qu'il faut avant tout faire, c'est démontrer qu'on pratique, donc quasi faire semblant. Et ça, c'était terrible, puisque ce qui sous-tend la démarche de conversion, c'est bien l'idée que c'est une démarche authentique. C'est une démarche d'être qui touche à l'identité personnelle. Alors... Tous les rabbins ne sont pas partisans de ce type de posture vis-à-vis notamment des mariages mixtes. D'autres rabbins, au contraire, vont pas surdéterminer l'idée que le peuple juif est uni autour de ses mitzvot et de la Torah. L'idée d'un peuple juif comme peuple saint, en fait, c'est ça l'idée. C'est que le peuple juif n'a de sens que dans le respect de la loi. Il y a d'autres rabbins qui privilégient autre chose, qui mettent aussi une valeur très grande dans l'unité et la cohérence et la solidarité interne au peuple juif, par-delà le message que le peuple juif porte. Et dans ces cas-là, le mariage mixte est jugé problématique, non pas tant parce que on a enfreint les règles, etc., la norme, etc., mais surtout c'est que ça crée un brouillage identitaire problématique. C'est-à-dire que le fait de multiplier les mariages mixtes, de voir arriver dans les synagogues, dans les communautés, des enfants de pères juifs qui ont des non-juifs, que les pères élèvent comme des juifs, mais qui ne sont pas juifs. Donc on a la création d'une espèce d'entre-deux, d'identité marginale, de judéité des marges, qui est très problématique et qui fait... Alors, en Israël, c'est dramatique, puisqu'il y a tous les juifs soviétiques qui sont arrivés depuis une vingtaine d'années, et une grande majorité n'est pas juif selon la loi juive. Et du coup, mais ils sont israéliens, ils parlent hébreu, ils servent dans l'armée, ils rencontrent des gens, ils veulent se marier et ils ne peuvent pas se marier. Donc on a vraiment un problème, et là... voilà, pour certains rabbins, c'est prioritairement ça le problème des mariages mixtes, c'est la confusion que ça crée dans le registre identitaire, dans l'ordre des statuts, et qui donc vont dire il faut les mariages mixtes. Finalement, on aura beau mettre en place la politique la plus répressive qui soit, ça marche pas. Donc il faut réparer le désordre que ça crée, et donc l'idée, c'est de réparer la transgression en réintégrant ceux qui en sont sortis à travers un mariage mixte et en intégrant leurs enfants. Et en fait, c'est l'idée de faire aussi d'une faiblesse une force, c'est-à-dire en se disant que ces gens qui frappent à la porte, eh ben, autant les intégrer. Bon, ben, on est en diaspora, souvent, la plupart. Il y a des gens qui partent, mais il y a des gens qui peuvent se joindre et saisissons-nous de ces énergies ça, et notamment, ils vont pas les prendre comme ça. Il y a quand même un processus de conversion. Et ce processus de conversion va être l'occasion de réinjecter de la norme, de réinjecter du contenu, mais pas sur le mode de la prescription, davantage sur le mode de l'accompagnement, de la persuasion, de l'apprentissage. Voilà. Alors, pour faire vite, j'ai un petit tableau, là, pour résumer. Ça marche plus. Il faut peut-être que je... C'était comment, hein? D'accord. Bon, ça doit, je vais continuer, je vais juste, hop, voilà. Ben non, tu m'as fait tout bouger. moi, je suis allumé, non. Voilà, bon, donc à partir de là, j'ai essayé d'élaborer, en fait, toute une partie de mon travail a consisté à, puis je vais conclure là-dessus après, hein, à, je ne suis pas encore au pluralisme, enfin j'arrive au pluralisme, à construire une espèce de comparaison, une typologie de deux régimes d'autorité, que vous voyez, hein, un qui est à partir d'une logique de la sainteté, hein, de montrer que à partir du moment où, à travers le processus de conversion, et l'idée qu'on se faisait de ce qu'était le peuple juif, c'est un peuple saint, c'est un peuple uni dans la Torah, autour de la loi, on avait une relation d'autorité qui se mettait en place. Donc, face à la transgression du mariage mixte, on avait l'exclusion des déviants d'un côté et la réintégration des déviants de l'autre. L'attente vis-à-vis des candidats à la conversion, c'était d'un côté la conformité, et de l'autre côté, c'était l'adhésion. Attendez à eux qu'ils adhèrent à un contenu. Le rapport d'autorité était un rapport de prescription. Hein. Faites ce que je vous dis, ne discutez pas. Et l'autre, une autorité fondée sur la persuasion, c'est-à-dire qu'on les amenait à avoir une relation beaucoup plus personnelle, et un processus beaucoup plus formalisé, hein, beaucoup plus rationalisé, d'ailleurs, beaucoup plus pensé. Il y a une vraie théorie de la conversion chez ceux qui mettent en place ce type de processus. Ensuite, les critères de validation de la conformité au modèle, c'est la preuve. Hein. Au Consistoire central de France, ils envoient des rabbins regarder le frigo, la vaisselle, etc., savoir si les gens mangent kasher, etc. Ouais, hein, c'est une affaire sérieuse. Et ici, on est plus dans l'évaluation, voilà, avec un discours. Et le rôle institutionnel lors du processus, c'est que c'est en fait là les institutions valident a priori en fait une fois que les gens sont conformes, ils disent ok, mais ils les laissent venir seuls. Alors que là, on a un accompagnement. Tout ça, ça va avec. Là, j'aurais pas le temps d'aller plus loin, mais en fait, moi, à partir de ce travail, ça a été pour moi un point d'appui pour reposer une question qui est ce sur quoi je travaille plus. Là, il faut que j'écrive maintenant. Formellement, c'est voilà, à partir de ça, en observant, alors là, j'ai travaillé en observant principalement deux processus de conversion, deux institutions hein, différentes, en comparaison, les conversions au Consistoire central de France, donc j'ai vu ça ici, là, et le Seminario Rabbinico Latino-Americano de Buenos Aires, le séminaire rabbinique, alors qui est une autre tendance du judaïsme, qui n'est pas un judaïsme libéral, mais ce qu'on appelle un judaïsme conservatif. J'aurais voulu vous expliquer ce que c'était, mais là, j'aurais vraiment pas le temps. Et voilà. Donc, de partir de là en disant, à partir, en fait, ces processus de conversion m'ont permis d'observer une relation d'autorité hein, et de voir que tous ne pratiquaient pas ça. Et en fait, que ça correspondait plus largement à des manières de construire du religieux très différentes, des rapports aux religieux. Par exemple, en général, la logique ici s'accompagne d'une plus grande intériorisation du croire et dans une déritualisation progressive qui est typique d'un judaïsme plus progressiste. Mais j'en arrive à là. Voilà, après quelques pages que je n'ai pas le temps de vous faire, mais pour vous montrer voilà, comment je travaille aussi, parce que après ça, il faudra le mettre en texte, en fait. L'idée, c'est de, mais voilà, en montrant que la pluralité religieuse dans le judaïsme peut se comprendre à travers des grandes tensions, et notamment entre ici, logique de sainteté hein, qui est vers le haut, et ici, peuple juif comme peuple solidaire, en bas, et que là, on pouvait ici trouver, observer, différentes manières de faire société, en tout cas de différents modes d'association religieuse, comme appelle Weber, qui correspondaient, pour faire très vite, à la différence que Max Weber fait entre secte et église, en fait, avec des logiques associatives, c'est-à-dire une religiosité qui est avant tout centrée sur le groupe, le petit groupe local, avec une forte homogénéité locale au sein de la communauté. L'idéal type étant la communauté Lubavitch, par exemple, avec une très grande insistance très importante sur le fait qu'on se coupe du monde, c'est-à-dire on se met entre gens particulièrement qualifiés religieusement, entre virtuoses, hein, pour reprendre le langage weberien, c'est-à-dire distinct du reste, non seulement du reste du monde, mais même distinct des autres juifs. Et c'est là où c'est pour ça que la mise en tension est intéressante, c'est que... Quoi ? C'est incroyable. C'est des tensions qui traversent l'histoire juive, hein, ces tensions entre la sainteté et l'unité. Dans certaines situations historiques données, dans certains moments donnés, dans certains contextes donnés, certains groupes vont surdéterminer une dimension ou une autre. Et donc là, par exemple, les Lubavitch, par exemple, très clairement, surdéterminent beaucoup la dimension peuple saint. Quitte à se couper des autres juifs, sauf à faire du prosélytisme, non pas à l'extérieur du judaïsme, mais au sein du judaïsme lui-même, pour ramener les juifs perdus à la réponse, à la tchouva. Donc on a un conversionnisme interne, insistant sur la conversion personnelle. Et c'est là où ils sont. En bas, on a le type église, hein, weberien, c'est-à-dire les grandes institutions... qui sont censés faire des compromis avec le monde, donc qui sont plutôt théoriquement amenés, par exemple dans le cadre des conversions, à devoir être plus aptes à faire des négociations vis-à-vis des principes idéaux. Dans les faits, on constate, et ça j'ai pas le temps, j'en ai juste pour 2 minutes, on constate que les institutions aujourd'hui ont plutôt tendance à valoriser une logique de sainteté, à mettre en place, comme l'Église catholique d'ailleurs, l'idée qu'ils sont minoritaires, entrer dans une logique minoritaire et qu'ils ont un trésor à défendre, entre guillemets. Voilà. Et là, on a une autre opposition entre une opposition qui traverse l'histoire juive aussi, entre différentes conceptions de la loi et de la tradition, et notamment entre la loi, on connaît tous, hein, entre la lettre de la loi ou l'esprit de la loi. Et ça, on a quelque chose qui organise notamment le judaïsme libéral, la différence entre ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme orthodoxe et ce qu'on appelle le judaïsme libéral, pour faire très vite. Ce qui est intéressant, juste pour finir, c'est que au sein du monde orthodoxe, cette différence-là travaille aussi au sein du monde orthodoxe entre des gens qui sont plutôt du côté de la prescription de la loi, etc., de l'hétéronomie de la loi, mais qui sont quand même dans une logique de compromis, et des gens qui sont sans être d'une logique de compromis. Donc là, on a vraiment les gradients au sein de l'orthodoxie qui peuvent être expliqués. Aussi au sein du judaïsme libéral, et je vais juste arrêter là-dessus parce que c'est très méconnu, aux États-Unis notamment, il y a tout un mouvement conversionniste du judaïsme libéral qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, disant le judaïsme est aux États-Unis, implanté aux États-Unis, il perd du monde, mais bon, autant jouer le jeu du marché religieux et mettre en place des politiques proactives de conversion vers les non-juifs. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'avec des positions comme celle-là, évidemment, ils sont pas du tout dans une situation de compromis, en tout cas vis-à-vis du reste du judaïsme. Ils savent que c'est des positions très très radicales, mais ce qui les importe eux finalement, c'est de à leur manière de surdéterminer la dimension religieuse, la dimension, et non pas la dimension peuple du judaïsme, tout ça. Donc ça fonctionne aussi pour expliquer ça. Voilà, merci.
Oui. Je voulais simplement demander plutôt. Donc le mariage civil n'existe pas en Israël, si j'ai bien compris.
Non.
Ben, c'est pas évident. Hein.
Non, ça n'a rien d'évident. Mais c'est pas évident là-bas non plus. Hein. C'est une situation compliquée. Hein.
Il est en train de passer au Liban. Au Liban, ils sont arrivés à faire un mariage civil, mais en Israël, ouais, ils ne sont pas encore arrivés. Tu
vois. Alors, le problème en Israël, c'est qu'il y a un accord depuis Ben Gourion, hein, statu quo, c'est-à-dire que les partis religieux et les institutions religieuses ne veulent pas lâcher sur l'identité.
Non. Mais on a, enfin, il y a des unions civiles gays maintenant. Et ouais. Les enfants des couples gays, puisque l'adoption est permise, du moment qu'ils répondent aux questions de la loi, sont intégrés dans le judaïsme. Donc on est traversé de tensions permanentes.
Oui, alors, mais surtout, il y a, en fait, je pense que la situation est très nouvelle aussi depuis une quinzaine d'années. Oui, ouais. C'est que jusqu'à il y a 15 ans, la question ne se posait pas. C'est que il n'y avait pas, pour ainsi dire, pas de mariage entre intercommunautaire, on va dire, entre entre palestiniens, enfin musulmans, chrétiens et juifs. Donc on avait essentiellement des et que la question est vraiment vraiment problématique depuis l'arrivée des Russes. Oui, parce qu'ils sont très, enfin beaucoup ne sont pas juifs.
Et c'est vrai que moi, j'ai des exemples que je connais individuellement, donc ça ne fait pas force de loi, mais disons, dans les années 70, la jeune fille jolie qui va ramasser les oranges au kibboutz et qui reste parce qu'elle trouve l'oranger joyeux, a eu des principes de conversion assez rapides.
Oui, il y a même, bien
sûr. Mais il y en a eu, mais extrêmement rapides. En Israël, moi, les gens que je connais sont convertis en moins d'un an et demi.
Absolument.
Mais on voyait d'autres tensions derrière. C'était des logiques sociales d'une société en construction où il ne fallait pas faire de la division, etc. Et là, on disait au rabbin, tu te tais un peu, mais ce n'est pas la logique diasporique. De
toute façon. Oui, alors, en Israël, ce n'est pas la logique diasporique. Mais ça, c'est une vraie question qu'il faudrait fouiller plus avant. Sauf que c'est les mêmes logiques religieuses.
Les mêmes logiques religieuses, exactement.
Et que, un petit peu après, le consistoire central de France, historiquement, il est là. Le franco-judaïsme, historiquement, c'est un judaïsme de compromis. Parce que c'était jusqu'en 1905, c'était la seule institution juive en France. Du coup, elle accueillait tout le monde.
Ah ouais, parce que
donc tout le monde était là, avec ses différences. Et cette situation est restée jusque dans les années 80. Les années 80, il y a eu deux poussées contradictoires. Une poussée là-haut, par les mouvements ultra-orthodoxes, et notamment les mouvements Lubavitch, qui ont concurrencé le consistoire sur le terrain de la fermeté religieuse. C'est vraiment des termes que j'aime pas, mais j'aurais besoin tellement.
C'est moi les juifs.
Mais il y a tellement de temps donc voilà. Plus les libéraux qui ont eu tendance à exister un peu plus. Et c'est à ce moment-là que le consistoire a dû se positionner, et notamment il s'est positionné de manière de plus en plus orthodoxe. Enfin, de plus en plus. C'est encore un mauvais terme. Voilà.
C'est vrai
dans une conception de plus en plus de défense, justement, de la sainteté, c'est-à-dire comme une citadelle assiégée, en fait, c'est ça qui se passe. Bon, ça part de partout, on tient plus grand-chose, au moins on va tenir ça, c'est-à-dire l'héritage. Voilà. C'est pas grave si on est moins nombreux, mais au moins qu'on porte.
Et c'est vrai que moi, quand j'avais fait de la généalogie, de la démographie historique sur le 19e siècle et les mariages mixtes, il y en a énormément, surtout dans la bourgeoisie parisienne, et ça pose pas de problème.
Est-ce qu'il y a des conversions ?
Plein, ouais. Plein. Et pas forcément si compliqué que ça comme aujourd'hui. Au 19e siècle, on convertit avec une facilité désarmante, mais de toute façon, on est dans une période où le judaïsme veut se faire discret, il met des orgues dans les synagogues, il reprend des architectures. Alors, je parle pas dans les colonies nord-africaines, ça c'est encore autre chose, mais à Paris en tout cas. Mais ça passe très vite. Et la dernière conversion que j'ai vue très aisée au consistoire, c'est celle de Nadine de Rothschild en une nuit. Bon, mais là, il y avait d'autres logiques qui se faisaient. Mais pour les autres, ça commence déjà à devenir problématique dans les années 60.
Ouais.
Tu vois, ça commence à se resserrer. Mais on fait avec, mais on renvoie plus facilement vers les libéraux. Même le consistoire renvoie vers les libéraux.
C'est ça. Ils se partageaient le travail.
Ils se partageaient le travail.
Ce qui se passe quand même... Le changement, c'est le changement de grand rabbin, c'est le grand rabbin Citruc, qui à un moment dit il faut rejudaïser les juifs de France. À un moment où il dit il faut rejudaïser les juifs de France, il bloque.
Il bloque tout.
Il bloque tout, et notamment les conversions. Ça va de pair, c'est-à-dire, on lisait là-haut, la conversion personnelle. Ça, le blocage des conversions à l'externe va avec l'hypervalorisation de la figure du reconverti, du tchouva, c'est-à-dire du juif
revenu.
Et ça va... C'est-à-dire qu'en fermant la conversion, on montre qu'on peut toujours réintégrer. C'est-à-dire qu'on met en scène l'exclusion, si vous voulez. Celui qui a fait le mariage mixte étant celui qui est allé le plus loin dans cette perdition, et on lui ouvre une porte. Mais là, c'est une mise en scène, et c'est pour ça qu'il lâche pas dessus. Moi, je me suis posé tellement souvent la question, mais pourquoi ils sont impopulaires, ça passe pas, ça, etc. Pourquoi ils tiennent là-dessus? Et ben parce que voilà, parce que c'est le dernier lieu de voilà où se met en scène le pouvoir, il se construit, la norme s'énonce, elle s'exerce même.
Et la répression. Puis il y a peut-être la logique, dis-moi si c'est une bêtise, mais il y a probablement la logique aussi entre guillemets israélienne, où c'était tellement facile d'avoir la nationalité israélienne une fois converti un peu n'importe comment, que les rabbins d'Israël ont aussi, dans une logique un peu nationale, remis les libéraux au pas en leur disant on reconnaît plus vos...
Alors il y a une logique cléricale qui est à l'œuvre en Israël, très clairement.
Très clairement.
C'est-à-dire qu'il y a une rabbanoute officielle du ministère de l'Intérieur, et ils veulent garder la main sur le mariage, et ils veulent garder la main sur l'identité. Ils ont le monopole des conversions faites en Israël. Alors monopole, c'est très intéressant, et ça il faut retracer, mais il y en a pour des heures. Ce monopole qui est attribué par la Knesset, parce que par des accords de gouvernement notamment, avec les minorités de blocage des partis religieux, qui systématiquement négocient leur participation à la condition de ne pas remettre ce qu'on appelle en cause ce qu'on appelle le statu quo, c'est-à-dire l'accord de principe qui a été au fondement de l'État d'Israël, qui accorde justement le mariage à cette institution religieuse centralisée, avec des rabbins qui sont des fonctionnaires, des accords de gouvernement qui, systématiquement, promettent de confier le monopole des conversions à cette rabbinauté. Alors, monopole en Israël. Donc, évidemment, c'est compliqué. Un monopole juridique, c'est un État. Il n'a pas juridiction transnationale. Mais ce qui est très intéressant, c'est que très régulièrement, la Knesset vote ce type de loi, qui sont quasi systématiquement cassées, mais au prix de batailles juridiques longues et coûteuses, par la haute cour. Et c'est très, très intéressant parce qu'on a ici, on voit toute la complexité d'Israël qui est à la fois, on a du mal à le penser comme un État laïque quand on voit qu'il n'y a pas d'État civil, etc. Et qui à la fois a une haute cour de justice qui va statuer selon le droit moderne. Et qui va statuer contre le religieux. Et c'est d'autant plus intéressant que, comme le religieux a des prérogatives institutionnelles, sur certains dossiers, non seulement le religieux est obligé, enfin la rabbanoute, arrêtons de dire le religieux en termes généraux, la rabbanoute est obligée de céder sur certains points parce qu'elle est en situation de délégation de services publics. Et alors je pense notamment sur la question du divorce. Et où c'est très intéressant, c'est que la rabbanoute a été obligée d'accepter de créer un cursus juridique pour enseigner le droit religieux aux femmes, pour permettre à des avocates d'accompagner les femmes dont les maris n'accordent pas le guet. Ce qui est une chose impensable pour le monde orthodoxe. Une femme ne doit pas étudier. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment justement... cette prérogative institutionnelle qu'a la rabbanoute sur la société israélienne finalement a très peu d'incidence sur les mœurs des gens, mais en revanche implique à l'intérieur, elle, on lui impose à l'intérieur des changements dans son fonctionnement.
Je reviens d'Israël et il y avait un grand débat que j'ai trouvé passionnant. C'était le cas d'un homme qui demandait le divorce, qui demandait le divorce pour aller vivre avec un autre homme, mais qui demandait à avoir la garde de ses enfants. Et l'institution religieuse, évidemment, voulait lui priver de son droit de garde, et il a complètement gagné. Ouais. Donc, même dans des cas si, entre guillemets, extrêmes, ou en tout cas si marquants, tu as cette tension-là, et ça a marché.
Ouais, et donc, du coup, c'est tout à fait... c'est passionnant à étudier, de voir ces dynamiques, c'est toute la complexité de la société israélienne...
Bonjour. Vous qui êtes anthropologue, la notion de socialisation, vous la connaissez aussi bien que moi, que c'est un long processus avec une intégration des valeurs et normes d'une société qui qui par la suite peut devenir un trait du caractère de la personne désocialisée, entre guillemets. Pensez-vous que ce soit aussi facile de passer à une conversion et de s'adonner à des pratiques que eux-mêmes, les rabbins, n'arrivent pas à expliquer, qu'il faut le faire, voilà. Pensez-vous pas que ces rabbins-là exercent une violence sur les convertis?
Qu'ils exercent une violence sur les convertis? Oui, c'est ce que je disais.
Oui. Et pourquoi le peuple juif pense qu'il est un peuple souffrant?
Il faut lire les livres d'histoire.
Ouais. Alors, au demeurant, quand j'ai parlé de ça, je n'ai pas parlé du point de vue juif, là, pour le coup. Je vous ai dit, j'ai, moi, des candidats à la conversion, des gens qui sont dans une logique d'identification au judaïsme, qui persuavent, qui s'identifient au peuple juif comme peuple souffrant. Le peuple juif ne se définit pas seulement comme peuple souffrant. C'est pas ce qui en fait son essence. Simplement, il y a 2000 ans d'histoire, un peu compliquée, notamment en Europe, qui fait que, légitimement, on peut penser que c'est pas le seul. Mais il l'est. C'en est un. Par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que la conversion, elle a lieu, la conversion formelle, quand les candidats à la conversion dépassent l'image du seul peuple juif comme peuple souffrant et vont découvrir qu'il y a du contenu, qu'il y a des pratiques qui font sens, qu'il y a une histoire positive aussi. Et c'est en général à ce moment-là, quand on passe d'une simple identification au peuple souffrant, et quand je dis ça, c'est que c'est des gens qui souffrent le plus souvent. Ils sont en recherche de quelque chose. Et donc, voilà, ils vont trouver une correspondance entre, voilà, l'identification structurelle. Je suis à la place. Voilà, je souffre, ils souffrent, j'en suis, nous sommes. Voilà. Mais en général, la démarche vraiment formelle va passer. Alors, soit par une rencontre affective, soit par la conversion, entre guillemets, le passage d'une perception du peuple juif comme peuple souffrant à perception du peuple juif comme porteur de quelque chose.
Merci à toi.
Merci de votre écoute.
Les étudiants demain donnent deux.
Oui, merci.
Ouais, merci.